Chapitre 8. Plusieurs versets du chapitre 7 auraient besoin d'être encore examinés au sujet de la petite corne, mais nous y reviendrons à la fin du chapitre 9. Nous avons vu que l'objet le plus important dans toute l'histoire du chapitre 7 était la petite corne de la faim. Elle absorbait la puissance de la bête elle-même. Elle proférait de grandes choses contre Dieu. Et c'était sa conduite qui amenait la destruction définitive de la bête. Maintenant, au chapitre 8, l'Esprit de Dieu s'occupe de deux empires, c'est-à-dire de la seconde et de la troisième bête, pour nous en donner une histoire détaillée. La troisième année du règne de Belshazzar, le roi, une vision m'apparut, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Et je vis dans la vision, et il arriva, quand je vis, que j'étais à Suse, le palais qui est dans la province d'Élam. C'était dans ce pays d'Élam où la Perse, qui était effectivement le corps de la seconde bête, l'ours du chapitre 7, est maintenant le bélier. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Verset 20. Ces deux royaumes sont réunis en un seul empire. Mais comme les Perses avaient le dessus, leur nom est donné à l'empire. Au chapitre 7, ce royaume est un ours auquel il est dit « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Et au chapitre 8, c'est un bélier donnant de ses cornes vers l'occident et vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pouvait lui résister. Et il faisait de grandes choses. L'empire des Perses s'est établi en renversant celui de Babylone. Daniel lui-même a survécu à la chute de celui-ci. Voici un bouc venant du couchant sur la face de toute la terre, et qui ne touchait pas la terre. Et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux. Ceci est très clair, c'est-à-dire que c'est l'empire des Grecs qui a commencé par Alexandre. Cette première grande corne qui paraissait beaucoup, c'est lui qui, effectivement, ayant réuni les Grecs contre l'Empire des Perses, les a conduits en Asie. En 3 ou 4 ans, tout a été bouleversé. L'immense Empire des Perses s'est écroulé devant l'énergie d'Alexandre qui lui a valu au milieu des hommes le nom de Grand. À la suite de ses excès, il mourut d'une fièvre chaude. Versets 4 et 5. Et le bouc devint très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les 4 vents des cieux. Verset 8. Alexandre alla jusqu'aux Indes, traversa la plus grande partie de l'Asie avec une énergie rare, et se distingua non seulement comme général, mais comme fondateur d'un empire solide. Mais Dieu mit la main sur lui. 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les 4 vents des cieux. Cela nous est dit aussi au verset 6 du chapitre 7, où la même idée nous est présentée sous la figure du léopard qui avait 4 ailes et 4 têtes. C'est-à-dire qu'après la mort d'Alexandre, le royaume fut divisé en 4 parties distinctes, et nous avons affaire principalement à 2 de ces 4 monarchies qui furent fondées après sa mort, parce que 2 d'entre elles furent aux prises avec les Juifs. Tout comme dans le siècle passé, il y eut lutte entre l'Égypte et la Turquie pour cette même terre sainte. Ce fait est assez remarquable, et pour le comprendre, il faut se souvenir que même la géographie dans la parole de Dieu est toujours considérée selon la position de la terre sainte. Par exemple, s'il est question du roi du Midi, il faut toujours penser au Midi de la Palestine, etc. De même que les Français comptent les degrés de longitude de Paris, les Anglais de Greenwich. Parce que la Palestine était le centre de toutes les pensées de Dieu quant au gouvernement de ce monde. C'est Jérusalem qui est la ville choisie, la ville élue. Car l'Éternel a choisi Sion, il l'a désirée pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité, ici j'habiterai, car je l'ai désiré. Psaume 132, versets 13 et 14. Pour en revenir à notre chapitre, il y a 4 cornes, et de l'un des royaumes désignés par ces cornes vint une petite corne, dont les actes constituent la partie importante de ce chapitre. Il n'est même pas dit comment elle sortit. Cependant, il n'est question que d'une seule. et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le levant, et vers le pays de beauté, c'est-à-dire vers la terre sainte. Une chose qui me frappe ici, et je l'ai trouvée utile pour comprendre bien des passages de la parole de Dieu, c'est de se placer au point de vue de Dieu. Dieu a dit qu'il avait continuellement ses yeux sur ce pays, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Et il a ajouté, « Mes yeux et mon cœur seront toujours là. » Eh bien, l'activité de la foi saisit toujours, pour ainsi dire, ce regard de l'Éternel. Il en est de même quant aux chrétiens. Dieu garde toujours ses brebis, c'est-à-dire il les aime toujours. Si je vois une de ces brebis bronchée, cela m'est très pénible, et en considérant les choses seulement comme homme, je pourrais l'abandonner. Mais en réfléchissant que c'est une brebis, je dois toujours agir à son égard de la même manière que Dieu qui pense toujours à elle, c'est-à-dire que la foi partage les pensées de Dieu quant aux objets de son amour. Quant aux choses de ce monde, Jérusalem n'est rien. C'est une ville entièrement foulée aux pieds, qui n'a ni commerce, ni richesse, ni rien. La superstition y est établie sur le sépulcre du Seigneur. Les rois de la terre commencent à y penser, il est vrai, parce que la Providence veut donner aux choses cette direction. Mais quant à Dieu, il y pense toujours. Il y a sur l'emplacement de son temple une mosquée de Mahomet, mais pour lui, Jérusalem est toujours sa ville, le temple toujours sa maison, sans varier jamais. Eh bien, la foi pense de la même manière. Maintenant, dans quelles circonstances se trouvait Daniel? Il était captif chez les Chaldéens à Babylone. La Palestine était pour lui le pays de beauté. Sa captivité ne changeait rien à l'intérêt qu'il lui portait. C'était une toute petite province d'un immense empire, presque inconnue dans cet empire, tellement elle était petite, relativement à lui. Mais pour Dieu, c'était le principal objet sur la terre. Si sa main était sur ce pays en jugement, c'était parce qu'il y avait pensé toujours. Son témoignage, au moment de ce jugement, s'y rapportait sans cesse. Et elle grandit extrêmement, vers le pays de beauté. Jamais on ne comprendra la prophétie de l'Ancien Testament si l'on ne saisit deux choses. Premièrement, que Dieu pense toujours à la gloire de Christ qui régnera sur la terre quand il reparaîtra. Si l'on sépare cette pensée des détails et des circonstances de l'Écriture, si l'on n'en tient pas compte en étudiant la prophétie, jamais on n'y comprendra rien, parce que c'est à cela que Dieu pense et qu'il fait concourir tous les événements de ce monde à ce but. Secondement, on ne peut avoir l'intelligence de la prophétie à moins qu'on ne comprenne que ce sont les Juifs qui y sont l'objet habituel des pensées de Dieu. Je dis les Juifs parce que sur la terre ce sont eux qui sont son peuple, dispersés, il est vrai, sous le châtiment, et qu'il ne peut plus reconnaître pour le moment, mais néanmoins toujours son peuple, parce que les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains 11, verset 29. De qui cela est-il dit? Peut-être me répondrez-vous que cela concerne l'Église. Cela est vrai, sans doute, de toute âme à qui Dieu a donné la vie, mais cela est dit pour démontrer que si pendant l'aveuglement judiciaire des Juifs, l'Église est établie sur la terre, note 1. Je me sers ici du terme « église » dans un sens populaire, éloigné de ce que la parole appelle l'assemblée. Fin de la note. Dieu rétablira aussi les Juifs dans tous leurs privilèges, parce qu'ils ne se repentent jamais de ses dons, ni de son appel. Romains 11, verset 29. Une fois qu'on a bien saisi les deux pensées dont nous avons parlé plus haut, savoir que Christ est le but de tous les conseils de Dieu et que les Juifs sont l'objet de ces conseils ici-bas, il y a une quantité d'expressions qui nous sont faciles à comprendre. Par exemple, le pays de beauté est le pays des Juifs. C'est qu'il n'y a rien qui soit plus noble devant Dieu que ses dons et son appel. Eh bien, quel est le peuple et le pays qu'il a choisi? C'est bien la terre qu'il a promise à Abraham, Genèse 15, et que Christ, comme semence d'Abraham, héritera avec Israël, le peuple que Dieu a choisi sur la terre pour être à lui. Alors cette petite corne grandit jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Verset 10. Voici maintenant la seule traduction exacte des versets suivants. Et il s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Note 1. Il n'y a pas ici liaison immédiate avec la petite corne. Fin de la note. Et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Et elle jeta la vérité par terre, et agit, et prospéra. Versets 11 et 12. Il s'agit d'une chose très importante, d'ôter le sacrifice continuel, c'est-à-dire de détruire complètement le culte de Dieu à Jérusalem. Voici donc ce que fait cette petite corne. Il ne s'agit pas ici du fait de proférer des blasphèmes contre Dieu, de s'élever contre Dieu. Il s'agit d'une chose très distincte et précise. Elle s'agrandit jusqu'à l'armée des cieux. Elle attaque ceux qui y sont dans ce temps-là, les Juifs qui habitent autour du chef, c'est-à-dire qui, dans le ciel moral, entourent le trône de Dieu. Il s'agit ici des sacrificateurs et des principaux parmi les Juifs à Jérusalem, ou de ceux que Dieu y reconnaît. Elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Et voyez comment Dieu juge des choses. Il attache plus d'importance aux sacrificateurs et aux principaux d'entre les gouverneurs de ce pauvre peuple qu'à tout ce que fait la petite corne dans le monde. Elle est montée jusqu'à l'armée des cieux, parce qu'il est infiniment plus important de toucher à ce qui regarde Dieu et ce à quoi Dieu regarde, d'effacer sa gloire, toute ternie qu'elle soit dans nos mains, que de renverser des empires et d'en fonder d'autres, de remporter des victoires, quoique Dieu prenne connaissance de tous ces événements dans sa providence. La petite corne aurait pu écraser nation sur nation, cela aurait été triste, mais c'est tout autre chose que de dire « point de culte de Dieu », car c'est détruire le seul lien par lequel Dieu puisse reconnaître un état de choses sur la terre. Voici donc quelle est la conduite spéciale de cette petite corne. Elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles. Et même elle s'agrandit, note 1. Remarquez que le mot est proprement « il », non pas « elle » ici. Fin de la note. Jusqu'au chef de l'armée des cieux. Monte jusqu'à celui qui est le vrai chef en toutes choses. Ceux qui étaient à Jérusalem représentaient Dieu. Et puis, bientôt ce sera le Christ qui sera évidemment le vrai chef de l'armée des cieux. Dieu permet de plus que le sacrifice continuel soit ôté à ce chef de l'armée. On voit donc qui est chef de l'armée. C'est l'Éternel. Le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Quel temps terrible que ce temps-là. Dieu appelle sa maison à Jérusalem le domicile de son sanctuaire. Le sanctuaire de Christ. Il était le Dieu des Juifs, et il l'est toujours. Par conséquent, ce n'est pas ici une simple permission de Dieu de fouler aux pieds cette nation comme châtiment pour ses péchés. Mais pour qu'elle le soit, il faut qu'il permette que son temple soit renversé, comme cela est arrivé lors de la captivité de Babylone. Et pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que Dieu se tient là, il faut absolument qu'il se manifeste en faveur de son peuple, tout en le corrigeant. Mais quand il permet que son temple soit abattu et les murs de la ville détruits, oh, alors il abandonne son peuple complètement. Non qu'il n'ait pas l'intention de le ramener, mais il veut dire « Je vous abandonne aux conséquences de votre péché ». On aurait pu supposer impossible que le lieu du sanctuaire fût renversé, mais l'Esprit de Dieu introduit ce contraste exprès pour faire voir que les choses que Dieu lui-même a établies, conservées pendant des siècles, il les abandonne, quoiqu'il les appelle siennes. Jamais il ne se repentira de ses dons et de son appel, mais il renverse tout ce qu'il a placé comme témoignage dans le lieu qu'il a choisi pour sa demeure et rompt ses liens avec le peuple tout en disant « C'est mon autel, mon domicile, mon assemblée, mon sanctuaire. » Voir Lamentation de Jérémie, chapitre 2, versets 6 et 7. Le mot employé au verset 12 est « un temps de détresse ». C'est le même mot en Job 14, verset 14. Dieu ne permet plus le culte qui aurait dû lui être offert et qui aurait continué si le peuple n'eût pas été infidèle. Mais, puisqu'il l'est, Dieu l'abandonne aussi. Il permet que le sacrifice continuel soit complètement mis de côté, que le lien manifeste et extérieur entre Dieu et son peuple soit entièrement rompu, que tout ce qui manifestait sa faveur dans ce monde, son sanctuaire, son culte, soit renversé et aboli. Verset 13. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, « Jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée, pour être foulé aux pieds ?» Ce qu'il demande, c'est quelle sera la durée de ce temps d'affliction. Il ne demande pas ici quels seront les exploits de la petite corne, mais quelle sera la durée de ce temps d'affliction, quant au culte et au temps judaïque. Nous verrons que cette distinction est importante. Je ne dis pas que de telles choses n'annoncent pas les derniers jours, seulement elles sont distinctes, la conduite de la petite corne et le temple foulé aux pieds. Il n'y a pas, dans l'explication qu'il donne à la fin du chapitre, un mot du culte. L'interprétation donnée de ce qui arrive à la fin de l'indignation omet entièrement ce sujet et ne parle que des rapports du roi fourbe, sans rien dire du temple, et enfin, il n'est dit nulle part que ce soit cette petite corne qui ôte le sacrifice à la fin. Voici ce que Dieu fait dans cette prophétie. Il prend un personnage, disons Antiochus Épiphane, ou tel autre comme type, et il donne son histoire. Alors, il prend certaines circonstances de son histoire pour montrer ce que l'antitype fera plus tard, mais il ne s'ensuit pas que toutes les circonstances du type se retrouvent dans l'antitype. Il prend des circonstances qui sont arrivées aux Juifs sous la monarchie syrienne, et il se sert de quelques-unes de ces circonstances pour nous montrer ce qui arrivera à la fin. La demande à laquelle le saint répond ici a trait à la durée de la profanation du temple et du culte. Il ne parle pas des exploits de la petite corne. Cette réponse vient avant et est distincte de l'interprétation donnée à Daniel au sujet de la petite corne. Il est possible que, dans l'histoire, la petite corne ait fait toutes ces choses elle-même, mais le Saint-Esprit ne les emploie pas toutes quand il parle de ce qui remplira le cadre à la fin. Verset 14. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. Voici ce qui nous facilite l'intelligence de ces versets. Au verset 10, elle, la petite corne, grandit jusqu'à l'armée des cieux. Et au verset 12, nous retrouvons, elle jeta la vérité par terre. Entre ces deux expressions, tout est en parenthèse, c'est-à-dire tout le verset 11 et une partie du verset 12. Les mots « et elle jeta la vérité par terre » sont ce que sera la conduite de cette corne au dernier jour, ce que nous trouvons expliqué à la fin. Gabriel vint près du lieu où j'étais, et quand il vint, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Et il me dit, « Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » Or, comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre. Et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, « Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. » Versets 17 à 19. Le mot « indignation » est souvent employé dans les prophéties. Il se trouve mentionné très particulièrement dans Ésaïe 10. Le mal a commencé du temps d'Akaz, successeur infidèle de David. Ce châtiment continuait et allait en augmentant. Les Juifs n'ont pas voulu se repentir. La main de Dieu s'est appesantie. Cela a continué. Voyez Ésaïe 10, versets 5, 8, 12, 17, 21, 25. Et continuera jusqu'à ce que le peuple revienne. C'était peu de choses au commencement, en comparaison de la fin, les attaques des Syriens, la perte de province. Et après cela, les conquêtes des Babyloniens, puis la captivité. Mais les Juifs n'ont pas voulu écouter. Dieu leur a envoyé son fils, vous savez ce qu'il en a été. Quand ils seront de nouveau dans leur pays, ils se livreront à l'idolâtrie, ils recevront l'Antichrist au lieu du Christ. Enfin, l'abomination de la désolation sera établie dans le lieu saint jusqu'à ce que le Christ détruise les ennemis du peuple, alors l'indignation sera terminée. Ce temps d'indignation consiste en ce que Dieu abandonne le peuple d'Israël à la puissance de ses ennemis. Mais ce qui est spécialement appelé l'indignation, ce sont les attaques auxquelles les Juifs sont abandonnés à cause de leur iniquité au dernier jour, au temps de l'Antichrist. Je ne dis pas que l'Antichrist soit l'indignation, mais les Juifs sont livrés aux instruments de l'indignation de Dieu à cause de leur relation avec lui. Dieu en a arrêté d'avance la durée. Voyez Ésaïe 10, versets 5 à 25, où l'on voit que c'est l'Assyrien qui en est l'instrument. Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Verset 23. Maintenant, le type est le roi des Syriens, je n'en doute nullement. Un roi de la race des Séleucides. Mais sa conduite n'est pas la fin de l'indignation. C'est ce qui est aussi très certain. Et dans l'explication que Daniel en donne, il se borne à donner ce que l'antitype fera au temps de la fin. Voyez le verset 17. Ce qui aura lieu à la fin de l'indignation contre les Juifs, à la fin des temps. Voyez le verset 19. Voici ce qui aura lieu alors. Et d'abord, il faut mettre de côté toute pensée de l'Église. Il ne s'agit aucunement des chrétiens. Il s'agit des Juifs et de tout ce qui arrivera aux Juifs au dernier jour, à la fin de l'indignation. Donc, au dernier temps des rois qui ont partagé l'Empire grec, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Ces royaumes seront rétablis, c'est la première chose, il y aura le roi du Midi et le roi du Nord, le roi de ce qu'on appelle maintenant la Turquie d'Asie pour le Nord et le roi d'Égypte pour le Midi. À la fin de la domination des royaumes qui ont surgi de l'Empire grec, nous retrouvons ces nations. Cela s'applique à ce qui est appelé la fin, le temps de la fin, c'est-à-dire la fin des voies de Dieu envers les Juifs. À la fin du siècle, si l'on veut, on retrouve l'Égypte, sans doute, mais spécialement le roi du Nord. Cette ancienne corne de la monarchie des Grecs rentrera en scène. Je ne puis dire qui possédera ces pays, mais le territoire en est très clairement déterminé. Autre fait, qui arrivera au jour où les prophéties s'accompliront, c'est que, lorsque les Juifs seront de retour dans leur pays, leur iniquité s'accroîtra encore. Ils seront plus méchants qu'ils n'ont été. Il leur arrivera ce que le Seigneur a dit, « Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » De plus, il a dit aussi, « Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui-même, et étant entré, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Matthieu 12, versets 43 à 45. C'est-à-dire que, les Juifs étant de retour dans leur pays, l'esprit impur, l'esprit d'idolâtrie qui les avait quittés, il n'y en avait pas du temps de Jésus-Christ, entre dans sa maison vide, balayée et ornée, et ramène avec lui sept autres esprits impurs, et le dernier état de la nation sera infiniment pire que le premier. Je ne dis pas que cela ne puisse arriver qu'aux Juifs, mais le Seigneur l'applique aux Juifs. Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Quand les perfides auront atteint le plus haut degré de perfidie, la perfidie ou la rébellion des Juifs contre l'Éternel sera à son comble. Nous trouvons donc dans ce passage la fin du siècle en général, et en particulier la fin de cette puissance grecque des quatre monarchies de l'Empire d'Alexandre et les Juifs devenus complètement apostats, rebelles contre Dieu. Non seulement dans leur état actuel, mais bien pire, lors du retour dans leur pays. Tout cela s'accomplira en Orient, en Palestine, avec un roi des monarchies grecques, duquel le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, a certainement été le type. Quant au roi au visage audacieux, entendant les énigmes, il y aura, chez ce dernier roi de la monarchie grecque, non seulement une force matérielle, mais aussi un esprit de sagesse et de compréhension capable d'expliquer les énigmes. Il sera une espèce de prophète qui, je ne le dis pas dans un bon sens, explique des choses profondes et mystérieuses. Il agit par sa fourberie et sa pénétration, et il agit sur la nation juive de cette manière autant que par ses forces matérielles. Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Verset 24. Ce sera un roi sous la dépendance de quelque autre puissance. Il sera fort, mais ce ne sera pas de sa propre force, comme cela arrive quelquefois. Et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Malgré son état de perfidie et de rébellion dans son ensemble, ce peuple est pour le prophète le peuple des saints. Note 1. C'est l'expression du chapitre 7, verset 27. Seulement là, les mots des lieux très hauts sont ajoutés à saints, vu le sujet du chapitre. Fin de la note. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et, par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Verset 25. C'est-à-dire que ce ne sera pas purement par la force des armes, mais il s'occupera des Juifs par des moyens de paix, et par cette pénétration, par cette subtilité, comme une espèce de rabbin, ce roi aura une grande influence sur la nation juive. Finalement, il se lèvera comme le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Verset 25. Ce roi fourbe non seulement renversera beaucoup de Juifs et obtiendra en même temps une grande influence sur la nation, mais s'élevant contre Christ, qui est le prince des princes, il sera détruit sans main. Vous pouvez voir que, dans l'explication de la conduite de la petite corne, il ne s'agit pas du sacrifice continuel. Cela ne lui est pas attribué du tout. Ainsi, nous sentons d'autant plus l'importance de la correction du verset 11. Il opprime les Juifs, triomphe des Juifs par la subtilité de son esprit, en perd plusieurs par la paix et la prospérité. Voilà ce qui nous est révélé d'une puissance qui sort de la monarchie grecque en Orient, qui agira au milieu du peuple juif à la fin et qui sera détruite parce qu'elle s'élèvera à la fin contre le Christ. Telle est son origine, sa conduite et sa fin. Revenons maintenant au sacrifice continuel, versets 13 et 14. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, « Jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds ?» Et il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. » Comme faisant suite à ces versets, nous trouvons au verset 26, « Et la vision du soir et du matin qui a été dite est vérité. Et toi, sers la vision, car elle est pour beaucoup de jours. » Je trouve une remarque importante à faire ici quant aux dates et aux calculs. Je crois que ce passage, ainsi que les passages de Daniel, qui parlent de 1260 ou 1290 jours ou 3 ans et demi, ne se prêtent pas à des computations par année. Et je suis prêt à croire que les 2300 jours ont été accomplis dans les temps anciens. Mais dans tous les cas, si l'on veut compter les dates, il faut appliquer ces dates aux Juifs et à Jérusalem, et non pas à des circonstances de la chrétienté. Il peut y avoir des circonstances analogues dans celles-ci, parce que le mystère d'iniquité est déjà en train, quoique le méchant ne soit pas encore révélé. Mais dans son développement sous tous les rapports, le mystère en a déjà les principes et l'orgueil. Seulement, dès qu'on en vient à préciser les choses et à se demander si elles ont été de fait accomplies, on est obligé d'appliquer ces passages à Jérusalem, aux Juifs, à ce qui arrivera à la fin de l'indignation. Or, la fin de l'indignation n'est aucunement arrivée. Je n'ai qu'un mot à ajouter. Ce que nous venons de traiter paraît un peu moins en rapport avec ce qui nous concerne. Ce qui avait trait à l'autre petite corne se rattachait beaucoup plus à nous, parce que cette petite corne appartient à la dernière bête à laquelle nous avons affaire, étant dans les pays qui doivent lui être assujettis, en France, en Suisse, en un mot dans l'Europe occidentale, comme ayant fait partie de l'Empire romain, où le christianisme a eu son développement, et non pas dans les territoires orientaux de la bête dont nous venons de parler. Mais s'il est important d'un côté d'être séparé du mal qui doit arriver au milieu des choses avec lesquelles nous sommes en relation, de l'autre, le besoin de cette séparation tend à fausser notre jugement, parce que, attachant une grande importance à nous-mêmes, nous ne sommes occupés que de nous-mêmes, tandis que Dieu attache beaucoup plus d'importance aux Juifs qu'à nous en ce qui regarde la possession et les promesses de ce monde. Mais voici ce qui ramène cette histoire dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des conseils de Dieu quant à son Christ. La dernière chose que nous voyons ici, dans les grands événements qui doivent avoir lieu, c'est que cette petite corne s'élève contre le Seigneur des Seigneurs. Or, pour que le monde soit béni, il faut que le Seigneur brise cette petite corne, afin que sous sa domination à lui, tous soient bénis et jouissent de la paix.